Bonjour à tous. Il aura fallu attendre 25 ans, mais c'est désormais une certitude. En 95, alors que les comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur étaient irréguliers, les sages du Conseil constitutionnel les ont tout de même validés après avoir procédé à un maquillage assez hallucinant. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jacques.
Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
Vous avez eu accès à ces archives du Conseil constitutionnel et vous allez donc nous raconter de l'intérieur comment les sages en sont venus à prendre une telle décision.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
J'ai de bonnes raisons de penser que votre compte de campagne, M. Chirac, est très largement dépassé. Donc vous avez un train de vie en campagne, en tout cas, qui laisse pas bien augurer de l'avenir.
Réponse de Jacques Chirac.
Pour le train de vie de ma campagne, M. Jospin, je puis vous dire que mes comptes sont et seront publics. C'est la loi. Et que par conséquent, le Conseil constitutionnel pourra juger. Alors, n'accusez pas sans savoir. Bien.
Voilà, ça c'était le débat, un extrait en tout cas de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 95. Lionel Jospin affirme que le futur président a dépassé son plafond de dépenses de campagne. Pas du tout, répond Jacques Chirac, qui lui explique que c'est de toute façon le Conseil constitutionnel qui tranchera. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Seulement 25 ans plus tard... Eh bien, on a la preuve que les sages ont fermé les yeux sur de graves irrégularités. Élodie Guéguin et Sylvain Tronchet, vous avez en effet consulté les archives du Conseil, 300 pages qui racontent comment s'est déroulé l'examen de ces comptes. Et cet examen, on va le voir, Élodie, il démarre en fait au début du mois de juillet de 1995.
Oui, le 12 juillet, le président du Conseil, Roland Dumas, se réunit avec les autres sages pour une première séance de travail. Et nous avons fait rejouer les dialogues qui sont consignés dans les procès-verbaux. Le 12 juillet, donc, la séance s'ouvre avec Roland Dumas et le secrétaire général du Conseil, Olivier Schramek.
Bien, nous allons passer au point 3 de l'ordre du jour consacré à l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle. C'est la première expérience dans ce domaine. Il faut qu'elle soit réussie.
Il vaut mieux passer le cap de cette haute tension politique dans les délais les plus brefs.
Haute tension. Pourquoi il parle de haute tension ?
Eh bien parce que le Conseil constitutionnel marche sur des œufs. C'est la première fois que les sages vont examiner des comptes d'une élection présidentielle.
Et comment ils vont les examiner précisément, ces comptes ?
Alors, vous l'imaginez, ce ne sont pas Roland Dumas et ses pairs qui vont éplucher les milliers et milliers de factures de cette campagne. Ils délèguent ça à ce qu'on appelle des rapporteurs, de jeunes hauts fonctionnaires issus du Conseil d'État ou de la Cour des comptes. Ces rapporteurs se mettent très vite au travail. Au bout de 15 jours, ils présentent aux sages leurs premiers éléments et déjà l'un d'entre eux, Laurent Touvet, explique qu'il y a un problème avec le compte d'Édouard Balladur.
Il nous est vite apparu que le souci de M. Balladur a été de maintenir les dépenses sous le plafond de 90 millions. D'ailleurs, les factures sont d'autant plus rares que les manifestations sont proches du scrutin. Il nous a toujours semblé que l'intégralité des dépenses ne nous a pas été présenté. Il y a de très nombreuses manifestations pour lesquelles nous n'avons aucune facture. En ce qui concerne les locaux de campagne, n'apparaissent dans le compte de M. Balladur que des factures relatives à 3 lieux. Or, nous avons identifié 86 permanences. Au moins des dizaines, sinon des centaines d'autres locaux nous restent inconnus. Nous n'avons rien trouvé non plus dans le compte de campagne qui se rapporte à l'outre-mer. Ni manifestation publique, ni locale, ni voyage.
Oui, donc ce rapporteur considère qu'il manque des factures.
Oui, et tout de suite, les membres du Conseil comprennent l'enjeu. Édouard Balladur a clôturé son compte très près du plafond autorisé. Il est à 84 millions de francs, il ne faut pas dépasser les 90. Donc le risque pour lui, c'est que les rapporteurs identifient des dépenses qu'il n'a pas déclarées, qu'il les réintègre dans le compte et qu'ils finissent par crever le plafond.
Et si on crève le plafond, Sylvain Tronchet, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, le Conseil constitutionnel serait obligé de rejeter le compte. Pour le candidat, ça veut dire pas de remboursement des dépenses par l'État, une lourde sanction financière. Donc, si les rapporteurs identifient trop de dépenses cachées chez Édouard Balladur, les conséquences politiques et personnelles sont terribles.
Et comment ils travaillent alors, ces rapporteurs ?
Eh bien, d'abord en épluchant la presse, en fait. Ils repèrent tout ce qui peut les intéresser, les meetings cachés, les permanences non déclarées. Ils ont même trouvé un article qui évoque la possible utilisation de fonds secrets du gouvernement pour la campagne d'Édouard Balladur. Le rapporteur Laurent Touvet demande donc au conseiller ce qu'il doit faire de cette information.
La presse a publié une information selon laquelle la somme de 2 400 000 francs trouvée par le juge Alphen dans le coffre-fort du Parti républicain proviendrait des fonds secrets de Matignon et serait le reliquat de la campagne de M. Balladur. Or, aucune recette mentionnée au compte de campagne de M. Balladur ne fait état de fonds secrets de Matignon, recette d'ailleurs interdite par la loi. Nous souhaiterions obtenir du Conseil constitutionnel des indications quant aux suites à donner à cette information.
Voilà, hein, le rapporteur s'interroge, et la réponse des conseillers constitutionnels Jacques Robert et Noël Lenoir, c'est « surtout pas de vague ».
Sur les fonds secrets de Matignon, je ne crois pas qu'on puisse entrer là-dedans. Contentons-nous de jeter un voile pudique.
Les fonds secrets, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, ce sont les dépenses et les recettes.
Oui, en dégageant touche, quoi.
Oui, mais d'autres problèmes reviennent par la fenêtre. Dès le lendemain, le rapporteur chargé de l'examen du compte de Jacques Chirac, François Lolloum, fait le constat suivant.
Certaines réunions mentionnées dans la presse ne correspondent à aucune dépense identifiée dans le compte. Tout se passe comme si le compte, destiné à la publication, avait été composé de façon à ne pas trop mettre en lumière le rôle effectivement joué par le RPR.
Et donc dans le compte Chirac, on cherche visiblement à minimiser les dépenses.
Oui, comme chez Édouard Balladur, hein, il manque des meetings. Et en plus, les rapporteurs pensent que le RPR a payé directement un certain nombre de dépenses du candidat sans les déclarer. Et comme chez Édouard Balladur, toujours, Jacques Chirac a clôturé son compte tout près du plafond. Donc lui aussi est menacé par un dépassement. Tout le monde est conscient de cette situation fin juillet.
Ouais, fin juillet, Élodie Guéguin, autrement dit au moment où tout le monde part en vacances.
Oui, alors les sages partent en congé, mais les rapporteurs, eux, vont travailler tout l'été. Ils contactent les candidats, ils ont des dizaines et des dizaines de questions à leur poser. Mais certains, comme Édouard Balladur, ne se montrent pas très coopératifs. Et d'ailleurs, à la séance de rentrée le 7 septembre, le conseiller Jacques Robert et le président Roland Dumas s'en agacent.
Ce qui me gêne dans le compte de M. Balladur, c'est l'attitude du candidat face aux questions qu'on lui pose. Soit il nous répond qu'il n'y a pas de dépenses, soit que ce sont les militants qui ont payé, soit que les dépenses figurent au compte et qu'on l'a mal lu, soit encore que les dépenses ont été réalisées en sa qualité de Premier ministre, soit enfin qu'elles ont été effectuées sans son accord.
Oui, et si on demande des preuves, on nous dit que les documents ont été détruits.
Les documents ont été détruits.
Oui, alors ça, les conseillers ont du mal à le croire. Hein, mais surtout, en épluchant le compte d'Édouard Balladur, les rapporteurs ont fait une découverte qui va empoisonner le Conseil jusqu'à la fin des débats. Découverte très suspecte, exposée ici par le rapporteur Laurent Touvet.
En consultant les livres de la banque, on constate des recettes de manifestations en liquide pour plus de 13 millions de francs. À titre de comparaison, ce poste ne dépasse pas 500 000 francs pour M. Jospin. Cette somme provient essentiellement d'un dépôt de 10 250 000 francs, 3 jours après le scrutin. Nous attendons les explications du candidat. Aurait-il constitué une cagnotte ?
Ouais, donc lui, il s'interroge clairement sur l'origine de cet argent.
Eh bien oui, hein, de l'argent liquide, en grosse coupure, c'est louche. À ce moment-là, les sages réalisent que leur mission sera beaucoup plus délicate que prévu et ils sont mal à l'aise, comme en témoigne cette sortie du conseiller Étienne Dailly.
Je ne me sens pas en mesure de rejeter un compte de campagne. Les difficultés doivent être mises en lumière, car de surcroît, c'est la première fois qu'on applique cette loi.
Ah oui, donc lui, Sylvain, il anticipe déjà un rejet des comptes de certains candidats et ça lui pose problème.
Oui, et Roland Dumas sent bien que d'autres sages risquent d'avoir des problèmes de conscience. Le lendemain, en fin de séance, alors que les rapporteurs sont sortis, il s'adresse donc aux conseillers.
Je voudrais recueillir votre sentiment sur nos travaux. On rencontre des difficultés sur deux dossiers, ceux de messieurs Chirac et Balladur. On sent bien qu'il y a des lacunes et on se rapproche du plafond avec tout ce que cela comporte.
Tout ce que cela comporte, c'est-à-dire ?
Bien, là, il faut expliquer quelque chose. Comme on l'a dit, hein, si le Conseil constitutionnel rejette les comptes d'Édouard Balladur et Jacques Chirac, les deux hommes seront sanctionnés financièrement. Mais, contrairement à toutes les autres élections, pour la présidentielle, La loi ne prévoit pas l'invalidation du scrutin. Jacques Chirac pourrait donc, théoriquement, rester à l'Élysée. Mais il serait extrêmement fragilisé. Hein. Ce serait une crise politique majeure.
Et sachant ça, donc, Élodie, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien là, Roland Dumas explique que les rapporteurs ne jouent qu'un rôle technique et que les membres du Conseil, eux, prendront en compte le contexte politique. Et ce sont bien les sages qui entendent avoir le dernier mot. Du coup, ils prennent aussi des initiatives en décidant de fermer les yeux et d'écarter certaines irrégularités.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, les ristournes excessives accordées pendant la campagne. Il faut savoir qu'une entreprise n'a pas le droit de faire un prix d'amis à un candidat, c'est une aide illégale. La rapporteure du compte de Jean-Marie Le Pen va s'en émouvoir, mais vous allez l'entendre, les conseillers vont préférer évacuer ces infractions.
Des remises de 50%, voire de 90%, ont été consenties aux candidats. On peut les qualifier d'avantages en nature.
Nous avons déjà eu un débat sur ce point et accepté le principe de la réalité des remises.
On se contentera d'un semblant de justification.
Nous n'allons pas rejeter un compte pour quelques centaines de francs.
Mais là, il s'agit de 3,4 millions.
On a admis le principe d'un redressement possible, mais sans le rejet du compte pour l'affichage.
Un redressement, mais pas de rejet, c'est donc ce que préconise Roland Dumas.
Oui, le rejet des comptes, c'est pourtant ce que prévoit la loi quand il y a des ristournes aussi massives. Mais là, les sages décident de mettre ça sous le tapis pour une bonne raison. S'ils sanctionnent Jean-Marie Le Pen pour ses ristournes, ils devront faire pareil avec les autres. Nous sommes le 20 septembre, le Conseil doit rendre sa décision avant le 12 octobre. Et à ce stade des débats, il est face à un mur d'interrogations.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors après avoir vu que les sages du Conseil constitutionnel sont bien embêtés à l'idée de devoir rejeter certains comptes de campagne, eh bien on va voir comment ils se sont débrouillés pour ne pas le faire. Et pour ça, Sylvain Tronchet, on va se pencher sur une des séances clés du Conseil, c'est celle du 3 octobre 95.
Oui, c'est la journée où les rapporteurs doivent présenter leurs conclusions définitives. On commence tout de suite avec le rapport sur le compte d'Édouard Balladur. Sans surprise, il est accablant. Pour les rapporteurs, le seul problème des 10 millions en liquide déposés sur le compte du candidat suffit à prononcer le rejet.
Le candidat nous a répondu que la somme de 10 millions de francs correspondait au produit des recettes des ventes de t-shirts, de casquettes, de briquets, etc. ainsi qu'au produit des quêtes effectuées lors des différentes manifestations de la campagne. À cet égard, nous relevons que le compte fait apparaître des factures d'achat de tels objets pour un peu moins d'un million seulement. La Banque Crédit du Nord nous a fourni un détail sommaire du versement des 10 millions, faisant apparaître que l'essentiel de cette somme est constitué de billets de 500 francs.
Et à combien s'élèvent pour les autres candidats des recettes de cette espèce ?
500 000 francs pour M. Jospin, 1 million de francs pour M. Le Pen.
Ah bah oui, effectivement, il y a un problème là.
Oui, les ventes de t-shirts, tout le monde sait que ce n'est pas crédible. Mais après avoir abordé ce problème, les rapporteurs égrènent une liste impressionnante d'anomalies, de manquements, de remises inexpliquées, en disant qu'à chaque fois, une seule de ces irrégularités, en droit, suffit à rejeter le compte. Ils demandent aussi à ce que 12 millions de francs de dépenses soient réintégrés dans le compte d'Édouard Balladur. Le compte afficherait alors 96 millions, largement dans le rouge.
Ouais, si son compte était rejeté, on va quand même rappeler ce qui se passerait.
On l'a dit, c'est la ruine pour l'ancien Premier ministre. Non seulement il n'obtiendrait pas le remboursement de l'État alors qu'il s'est endetté personnellement à hauteur de 31 millions de francs, mais en plus, il serait condamné à reverser au Trésor public le montant du dépassement, c'est-à-dire plus de 6 millions de francs.
Ce qui n'est pas une paille. Et donc, Élodie, comment vont réagir les sages ?
Eh bien, ils se sentent au pied du mur et devant les rapporteurs, le conseiller Étienne Dailly n'hésite pas à le dire à Roland Dumas.
Depuis le début de ce débat, Nous sommes en train, grâce au remarquable travail de nos rapporteurs, de nous piéger nous-mêmes dans une trame, une toile, dans laquelle nous allons trébucher. Comment pouvons-nous rejeter des comptes ? Moi, je ne m'y vois pas. D'un autre côté, il faut montrer que nous avons fait notre travail.
C'est un point très important que nous devrions traiter dans le vrai délibéré.
Mais nous sommes déjà piégés.
Ouais, déjà piégés, autrement dit, les conseillers ont l'impression que les rapporteurs leur ont déjà forcé la main.
Oui, mais cette sortie du conseiller d'Aï, les rapporteurs ne l'apprécient pas du tout. Ils vont d'ailleurs se plaindre dans le bureau de Roland Dumas. Le président demande alors au conseiller de faire preuve d'un peu plus de retenue. Les travaux ne sont pas terminés. Les sages ne doivent pas laisser penser qu'ils ont déjà pris une décision.
Ouais, donc si on récapitule, Élodie, on a des rapporteurs qui plaident pour le rejet, des conseillers qui freinent des quatre fers et Roland Dumas qui invite ses collègues à faire attention à ce qu'ils disent. Bon, et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, c'est là que les membres du conseil commencent à tripatouiller les comptes. Alors ils acceptent qu'on réintègre quelques dépenses chez Édouard Balladur. Après tout, s'il reste sous le plafond, ça va. Le problème, c'est que si on ajoute des dépenses, sans ajouter des rentrées d'argent, le compte est en déséquilibre et c'est un motif de rejet. Du coup, les sages hésitent, ils pinaillent, ils tergiversent, à tel point que le rapporteur du compte Balladur, Rémy Frenz, finit par perdre son calme.
Mais qu'est-ce qui empêche le Conseil de se borner à constater que certaines dépenses ont été réalisées, certains avantages en nature ont été accordés, pour constater le dépassement du plafond et donc rejeter le compte ?
Une remarque qui peut sembler logique. Et Roland Dumas, alors, qu'est-ce qu'il répond à ça ?
Alors, comme souvent, il dit « on verra », il préfère changer de sujet et passer au cas de Jacques Chirac.
Et donc là, Sylvain, le rapporteur du compte de Jacques Chirac, lui, il dit quoi ?
Eh bien, à peu près la même chose que pour Édouard Balladur. Hein. D'abord, un long inventaire d'irrégularités. Et puis, le rapporteur s'apprête à lire le projet de décision de rejet qu'il a rédigé. Et là, Roland Dumas lui coupe la parole. Il oublie sa courtoisie habituelle. Il lui dit « Inutile de lire votre décision, nous avons compris, c'est la même méthode et la même structure que pour Monsieur Balladur. »
Et quand on lit les archives, on se rend compte qu'il est vraiment agacé.
Oui, et d'ailleurs, à peine les rapporteurs ont quitté la pièce, que Roland Dumas s'adresse au conseiller.
Commençons tout de suite une discussion libre sur le compte de Monsieur Chirac. On voit assez clair. Nos rapporteurs n'ont rien laissé au hasard, ils sont allés au maximum de la loi. Alors, soit on les suit, soit on fait preuve d'imagination et d'habileté. Qu'en pensez-vous ?
Nous sommes très attendus, pas par la grande masse, ils ont oublié, c'est passé, mais les dîners parisiens, eux, nous attendent.
Il est plus difficile de réduire le compte des dépenses de M. Chirac que celui de M. Balladur. Car M. Chirac a accepté des réintégrations de dépenses. Ces acceptations le font tangenter très fort et ça déborde. Pour enlever 4,2 millions de francs, moi, je ne sais pas comment m'y prendre.
Bon, cela veut dire que vous allez dans le sens de faire descendre les dépenses sous le plafond. Mais si c'est impossible, comment s'en sortir ?
Comment s'en sortir ? Oui, on comprend que l'objectif, c'est de sauver le soldat Chirac.
Oui, mais pour sauver le soldat Chirac, il faut aussi sauver le soldat Balladur. Les deux comptes présentent le même type d'irrégularité. Il faut sauver les deux, mais il ne va pas être aisé de faire avaler ça au rapporteur. Et du coup, le débat s'engage entre les conseillers.
Il faut faire attention aux rapporteurs. Ils ont épluché les comptes depuis longtemps. Il ne faut pas se discréditer à leurs yeux. Dans la rédaction, on peut s'en tirer sans prononcer le mot « rejet ». On peut ménager les choses.
Cette décision est décisive du point de vue de l'image du Conseil au regard de l'extérieur. Mais M. Balladur ne nous facilite pas la tâche. Le point délicat, c'est les 10 millions de francs. Si on ne ferme pas les yeux, c'est le rejet automatique. Je vois pas d'autre solution. Le Conseil peut-il considérer qu'il n'y a pas lieu à sanctions financières ?
Non, la loi est formelle.
Ce serait la première fois que le Conseil statuerait contre la loi dans le contentieux électoral. Les risques sont énormes et même fatales.
Personnellement, je ne me verrais pas rejeter le compte du président élu. Et je serais très gêné s'il y avait un élément décisif. C'est vrai que le travail des rapporteurs a été admirable. Mais savoir ce que les rapporteurs pensent de moi m'est égal. Je ne leur dois aucun compte. Nous avons prêté serment, pas eux.
Oui, ce qu'on entend, Élodie Guéguin, c'est qu'il y a vraiment maintenant une ligne de fracture entre les conseillers et les rapporteurs.
Effectivement, hein, c'est devenu un bras de fer, une guerre feutrée. Et le 4 octobre, c'est donc lors d'une séance à huis clos, entre sages, que le conseil tente de laver le linge sale de la droite française. Alors, il commence par le plus urgent, le comte Chirac. Les conseillers reprennent ce qui leur a été présenté la veille avec un objectif, enlever le maximum de dépenses pour que le compte du chef de l'État passe sous la barre fatidique des 120 millions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils vont y aller à grands coups de ciseaux. Écoutez, c'est Roland Dumas qui ouvre la discussion en présentant un tableau de dépenses.
Ce tableau est plus délicat. Il récapitule les réintégrations proposées par les rapporteurs. La question est de savoir comment retirer des dépenses.
On peut commencer par les loyers. La somme correspond à une utilisation à 80% de ces locaux pendant 5 mois.
Comptons 4 mois à seulement 50%.
Pour les autres locaux, on laisse tomber.
C'est un peu rapide. L'existence de ces locaux a été reconnue par le candidat.
Pour les réunions publiques sans Jacques Chirac, il faut distinguer celles qui ont été tenues avec son accord et celles qui ne l'ont pas été.
Oui, mais on a d'ores et déjà franchi la barre.
Monsieur Chirac accepte déjà d'intégrer environ 2 millions de francs. On est à 1,3 million du plafond.
Bon, et pour le problème des déplacements dans les dom-toms, que fait-on ?
On peut admettre ce que propose monsieur Chirac.
Oui, oui, tout à fait.
J'ai fait un rapide chiffrage qui approche du plafond sans le dépasser.
Il est sauvé.
Oui, il est sauvé si vous supprimez aussi certains meetings. Là, avec les invitations, les tracts et les autocars.
Donc Jacques Chirac est sauvé.
Alors pas tout à fait, hein, on le verra. Mais maintenant, il faut évoquer le problème Balladur. Car autant il y a unanimité sur le cas du président Chirac, autant le cas d'Édouard Balladur divise profondément le Conseil. Et c'est à nouveau Roland Dumas qui ouvre le débat.
Il est évident que le Conseil peut rejeter le compte de Monsieur Balladur. J'attire cependant votre attention sur les risques. Les commentateurs pourraient s'interroger sur ce qui s'est passé dans le cas de M. Chirac.
Je suis pour le rejet. Le rapport fait bien apparaître le versement d'une somme en espèces de 10 millions de francs. La banque a répondu qu'il s'agissait du versement dans 4 sacs de billets de 500 francs. Pour le candidat, ce sont des ventes de gadgets. Peut-on vraiment ignorer tout cela ? En conscience, je crois difficile de fermer les yeux.
N'a-t-on pas le droit de mettre de l'argent de côté et au dernier moment de l'utiliser pour le financement de sa campagne ? Mais il est vrai que la réponse du candidat n'est pas crédible.
J'ai les mêmes difficultés de conscience que Madame Lenoir. Je ne vois pas comment on peut jeter un voile pudique sur une telle recette sans justification aucune. Si on laisse passer cela, le Conseil perd sa crédibilité.
Moralement, je partage les mêmes sentiments de fond. Mais je ne vois pas comment on peut rédiger une décision de rejet. Chez M. Chirac aussi, il y a un versement unique de 3 millions de francs. Où place-t-on la barre ? En fait, le soupçon que nous avons dans les deux cas, c'est le même.
La différence, c'est que l'un a versé 10 millions de francs et l'autre 3.
Il m'avait totalement échappé que le candidat Chirac avait également fait ce type de versement. Dans ces conditions, dès lors qu'on ne rejette pas le compte de M. Chirac, il est difficile de rejeter le compte de M. Balladur sur le même terrain.
Bon, je consulte donc le Conseil sur la question suivante. Êtes-vous d'accord pour rejeter le compte de M. Balladur sur la question des 10 millions de francs ? Ça fait donc 4 voix pour le rejet, 5 voix contre. Le vote est acquis.
4 voix pour le rejet, 5 contre, dont celle d'ailleurs de Roland Dumas. Les conseillers ont donc décidé de sauver aussi Édouard Balladur.
Oui, mais maintenant, il faut faire avaler ça au rapporteur. Le lendemain, donc, hein, se tient une nouvelle réunion, cette fois-ci en leur présence. Évidemment, il est hors de question d'aborder devant eux les manœuvres de la veille. Ils sauteraient au plafond, hein, mais en fin tacticien, Roland Dumas leur expose un subtil raisonnement juridique qui va permettre de justifier qu'ils renoncent à réintégrer certaines dépenses chez les deux candidats.
C'est-à-dire ?
Pour faire court, Roland Dumas explique au rapporteur qu'une dépense doit être expressément autorisée par le candidat et que, s'il y a un doute, ça doit lui profiter. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy ou François Bayrou vont faire un meeting de soutien à Édouard Balladur. Après tout, c'est peut-être une initiative personnelle. Peut-être n'ont-ils pas prévenu Édouard Balladur. Donc, il ne faut pas compter ces meetings. Même chose pour Alain Juppé chez Jacques Chirac. Bon, personne ne croit sérieusement à ça. Mais Roland Dumas demande aux rapporteurs de revoir leur copie et de revenir plus tard dans la journée avec une nouvelle proposition.
Et quand ils reviennent alors, ces rapporteurs, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, ils ont beau avoir tenu compte du raisonnement subtil de Roland Dumas, le compte de Jacques Chirac est toujours dans le rouge, au-dessus du plafond. Tous les sages tombent alors sur le rapporteur Rémy Frenz pour qu'il rabote encore et encore. Et c'est Roland Dumas qui ouvre le feu des questions.
Le candidat était-il à toutes ces réunions ?
Non, à 22 seulement.
Alors on divise par deux.
On retient 800 000 francs.
Et là, il y a un voyage 6 mois avant l'élection, 7 même.
Ah non, mais ça, on peut supprimer.
Qui est d'accord pour supprimer ces 120 000 francs ? Tout le monde est d'accord. Bien. Où en est-on maintenant avec les chiffres ?
Il reste un dépassement de 597 000 francs.
Il reste deux solutions. Soit on dit que quelques centaines de milliers de francs de dépassement ne sont pas de nature à entraîner les sanctions financières prévues par la loi, soit on minore encore les réintégrations.
Juridiquement, il n'y a qu'une solution. Si on ne veut pas infliger de sanctions, il faut rester en dessous du plafond.
D'après mes calculs, l'excédent serait de 61 000 francs seulement.
Les 100 000 francs de l'immeuble à proximité du siège constituent une estimation assez imprécise. En les enlevant, vous passerez en dessous de la barre.
Qui est pour supprimer ces 100 000 francs ? Tout le monde est favorable ? C'est bon, le compte est arrêté.
Voilà, le plafond de dépenses est à 120 millions de francs pour Jacques Chirac et le compte est arrêté à 119 959 188 francs. On est à 40 000 francs seulement du plafond.
On se croirait presque dans une vente aux enchères quand on entend ça. Alors ça, c'est pour Jacques Chirac. Maintenant, Élodie Guéguin, il va aussi falloir faire avaler aux rapporteurs le cas d'Édouard Balladur.
Oui, et là non plus, Jacques, les rapporteurs ne se laissent pas faire. Ils présentent à nouveau un compte en excédent. Les conseillers ont beau raboter de nouveau, c'est compliqué. Roland Dumas demande alors une suspension de séance, car l'heure est grave. Il convoque les rapporteurs dans son bureau.
Et on connaît la fin de l'histoire, puisque les comptes des deux candidats seront finalement validé.
Oui, et la dernière séance, 6 jours plus tard, le 11 octobre, est une simple formalité. La manœuvre des sages a parfaitement fonctionné, le président élu ne sera pas déstabilisé. Un seul compte est rejeté, celui de Jacques Cheminade. Il ne reste plus qu'à publier les décisions. Et écoutez ce que suggère à ce moment-là Olivier Schramek, le secrétaire général du Conseil.
Je vous propose d'indiquer dans les décisions que les délibérations ont eu lieu au cours des séances des 28, 29 septembre, 3, 5 et 11 octobre. Retenir seulement la date du 11 donnerait l'impression fallacieuse d'avoir délibéré trop rapidement.
Oui, et cela éliminera la réunion du 4 qui a eu lieu sans les rapporteurs.
Oui, il est inutile de raviver les plaies cautérisées aujourd'hui. Avant de nous séparer, je tiens à remercier le secrétaire général pour le travail qui a été organisé sans faille et collégialement. Je vous remercie et vous en félicite.
Voilà, c'est ainsi que se terminent 3 mois au cours desquels le droit électoral aura souvent été tordu pour permettre d'éviter de rejeter des comptes truffés d'irrégularités. Alors pour l'anecdote, après cette dernière séance, Roland Dumas convie tout le monde à un grand déjeuner. Eh bien, les 9 rapporteurs refusent l'invitation.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu dans le détail comment les sages du Conseil constitutionnel s'y sont pris pour valider des comptes irréguliers. Maintenant, Élodie Guéguin, on va voir ce qui s'est passé après, parce que ces archives que vous avez consultées, elles sont restées secrètes pendant 25 ans, mais il y a quand même eu des fuites et des conseillers ont fait quelques confidences à des journalistes.
Oui, et donc il a été demandé à plusieurs reprises à Roland Dumas de s'exprimer sur le sujet. Et à chaque fois, il a dit « Vous le constaterez par vous-même à l'ouverture des archives, cette année-là, le Conseil constitutionnel a sauvé la République en préservant Jacques Chirac. Écoutez comment il se justifiait face à Audrey Crespo-Mara sur LCI, c'était en 2015.
Aux yeux du monde, le représentant de la France, c'était Jacques Chirac. Alors vous imaginez qu'on aurait invalidé ses comptes.
C'était plusieurs millions de francs.
Oui, sûrement, oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, à ce niveau, il ne faut pas compter en centimes ni en francs. Hein. Il faut penser à l'image que l'on donne de la France et ce qu'on va en faire.
Quand vous dites « j'ai sauvé la République », qu'est-ce qui aurait pu se passer ? On invalide, il y a une vacance du pouvoir ?
Non, il aurait probablement été validé, mais il aurait été diminué à 100% dans les conférences internationales. C'était ça le problème. Dans les 8 jours qui suivaient cette décision, il devait se rendre, je ne sais plus, à New York ou à l'heure. Vous imaginez un peu, en présence du président des États-Unis, en présence du président de la Russie, quelqu'un qui arrive qui dit « je représente la France » et les autres ricanent en disant « mais oui, mais il est mal élu ».
L'ancien ministre des Affaires étrangères assume donc avoir validé ses comptes. Il pense, il dit en tout cas l'avoir fait dans l'intérêt du pays. Maintenant, Sylvain Tronchet, après avoir examiné ses archives, on se rend aussi compte qu'il n'est pas le seul à avoir voulu ça.
Oui, c'est vrai que d'un côté, c'est Roland Dumas, par exemple, qui assume, en tant que président, de bâillonner les rapporteurs. Mais à la lecture des comptes rendus, on se rend compte aussi qu'il n'a pas eu beaucoup à argumenter avec certains conseillers. Je pense notamment à Maurice Faure, dont il a été écrit qu'il était le seul à s'être opposé à Dumas. En fait, pas du tout. Ce que l'on a pu lire, c'est tout le contraire. Maurice Faure ne cache pas, dès le début, que pour rien au monde, il ne veut rejeter le compte du président élu. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien dit, ou presque, comme Jacques Robert. Il a très mal vécu cet épisode, mais comme il l'a reconnu, des années plus tard, en 2012, au micro de notre collègue Benoît Colomba, il a manqué de courage.
Résister à Dumas, c'est très difficile. Non pas parce qu'il fait preuve d'autorité, mais parce qu'il a un charme indéfinissable. J'ai vécu pendant 9 ans une totale indépendance, sauf ça. Ça m'a perturbé. Je me suis dit, moi qui pensais que cette institution était une indépendance totale, ben elle s'est fait manœuvrer, où nous n'avons pas fait notre devoir. Mais faire notre devoir, ça consistait à prendre des responsabilités écrasantes. Si on avait eu un peu de courage, on aurait dû tous démissionner.
On aurait dû tous démissionner, oui, c'est un véritable aveu. Maintenant, cette affaire, Sylvain, est-ce qu'elle a eu des conséquences ?
Clairement, oui, et on les ressent toujours aujourd'hui. Ce que retracent les archives du Conseil constitutionnel, hein, en fait, c'est un petit guide de la fraude au financement de campagne. Parce que des irrégularités, il y en avait dans beaucoup de comptes, pas seulement ceux de Jacques Chirac et Édouard Balladur, hein. Des surfacturations, des sous-facturations, des remises illégales, des dons illégaux. Et en fermant les yeux en 1995, le Conseil constitutionnel a probablement permis qu'elle perdure des années plus tard. Ce sera le cas, par exemple, de l'affaire Big Malion en 2012.
Ah, et certaines de ces irrégularités, Élodie, eh bien, il faudra qu'il y ait un attentat beaucoup plus tard pour que des juges enquêtent et qu'on en découvre l'existence.
Oui, c'est vraiment l'autre point noir, l'autre tâche de cette affaire. Le Conseil aurait dû saisir la justice lorsqu'il pensait qu'une fraude avait été commise, ce qui était le cas avec les 10 millions de Balladur. Alors on sait aujourd'hui que l'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir bénéficié de rétrocommissions sur des ventes d'armes. C'est de là que pourrait venir le magot. Mais imaginez-vous, il aura fallu un attentat 7 ans plus tard à Karachi au Pakistan pour que la justice mette le nez dans le financement de sa campagne.
Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'il sera bientôt jugé.
Oui, tout comme François Léotard, Édouard Balladur, 91 ans, comparaîtra en janvier prochain devant la Cour de justice de la République.
Bien, merci Élodie Guéguin, merci Sylvain Tronchet. Alors je précise que tout ce que vous avez entendu n'est pas une fiction, mais c'est bien mot pour mot ce qui a été dit, prononcé à l'intérieur même du Conseil constitutionnel et qui est reproduit dans les archives. Je précise aussi que cette émission, on peut la réécouter, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi lire le récit détaillé de tout ce qui s'est passé en 95 et nous laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. À la technique cette semaine, il y avait Donatien Cahut. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. À suivre, après le flash, la librairie francophone. Emmanuel Kérad recevra l'académicien Amin Malouf.